Bonsoir, Aude Lavigne, on vous retrouve lundi pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la littérature. Ce soir, Elisabeth Franck Dumas et Florent Georgesco se font face à notre affiche « Disent-ils » de Rachel Cusk et « 45 tours » de Mark Green. Nous évoquerons aussi plus rapidement « Un été sans fin » de Serge Koster et « Mademoiselle As » de Michel Audin. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux gagnés grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle « Le monde d'hier » de Stéphane Zweig, mise en scène Patrick Pinault et Jérôme Kircher, c'est peut-être des Mathurins à Paris, des places à gagner pour la représentation de mercredi prochain, le 23 mars, à 19h. Enfin, nous avons rendez-vous avec le chef d'orchestre Raphaël Pichon, qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Nous ouvrons cette dispute avec le nouveau livre de Rachel Cusk, auteur notamment d'Arlington Park et des variations Bradshaw, dont nous avons parlé ici. Disent-ils, c'est le beau titre de ce livre paru aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Céline Leroy.
Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Plus que mes mains noires, je ne te demanderai plus de m'appeler quand tu comptes trop tard. Et même si je voulais savoir.
Alors j'ai cité Arlington Park dans ma présentation, question des. Des femmes chez Rachel Cusk, on la connaît. C'est vrai que c'est le titre le plus connu à Arlington Park, peut-être pour l'instant, qui a d'ailleurs donné lieu à une adaptation au cinéma en France sous le titre La vie domestique, un beau film d'Isabelle Chachka. Mais il faut commencer par dire que Disent-ils est très différent dans la forme choisie par son auteur. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé. J'ai peut-être pas lu tous les livres de Rachel Cusk non plus. Je sens qu'Elisabeth Franck Dumas, grande spécialiste de cet auteur, va nous en dire plus. Il faut peut-être commencer par parler de son héroïne, Faye, une écrivain qui quitte Londres pour aller donner un atelier d'écriture à Athènes, en Grèce, pays qui va, on le sait pas vraiment bien, et on en entendra parler. Et des histoires, elle va en entendre beaucoup, beaucoup, cette écrivaine dont on sait finalement assez peu de choses.
Oui, alors là, je crois que vous avez résumé toute l'intrigue, en fait. Enfin, oui, vous l'avez résumé et en même temps, vous n'avez rien dit. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que contrairement à d'autres intrigues à tiroirs un peu plus complexes qui ont pu donner lieu à Arlington Park ou aux variations Bradshaw, avec toujours cette intelligence des situations, des rapports entre les couples, dans les familles. Bon, là, on est sur quelque chose de très différent et on a très peu accès à l'intériorité des personnages, à l'intériorité de la narratrice, hormis ce que les personnages veulent bien nous livrer et nous confier. Ça, je dirais que c'est la première différence majeure avec...
Ce n'est que de l'extériorité, là,
voilà,
pour le coup.
C'est, enfin, Oui, c'est quasiment que de l'extériorité. Donc ça, c'est quand même une énorme différence avec ces romans de grandes psychologues qu'ont pu être les précédents. D'un autre côté, on retrouve quand même sa grande intelligence et des situations, je trouve, et cette vision assez... parfois sévère, enfin je dirais un petit peu astringent des rapports humains. On retrouve aussi des thèmes qui lui sont chers, les relations de couple, des histoires de trahison, l'argent, la famille, les femmes surtout, la vie des femmes. Mais en fait voilà, ce qui va être déployé dans ce livre, ce sont des prises de parole successives de personnages que la narratrice va rencontrer. Il y a son voisin dans l'avion qui va lui raconter comment il a trompé sa femme, sa vie familiale assez ratée, on pourrait dire. Un autre qui raconte le premier voyage qu'il a fait avec ses enfants après son divorce. Une femme qui a été agressée, qui n'arrive plus à écrire. Une autre qui se met à battre le chien que ses enfants lui ont fait adopter. Enfin voilà, ça n'aurait pas d'intérêt de raconter toutes ces petites histoires. Ce que je trouve très réussi, c'est que... même si on n'a pas accès à la vie intérieure enfin, hormis ce qu'ils veulent bien donner, il y a aucune explication psychologique. Je trouve que c'est faire grand cas de l'intelligence de son lecteur, qui va tirer les conclusions qu'il a envie de tirer de toute cette succession d'anecdotes. Évidemment, tout ça est quand même organisé de manière assez ingénieuse. Elle oriente les conclusions qu'on pourrait tirer. C'est beaucoup moins facile que ça n'en a l'air, ou beaucoup moins simple que ça n'en a l'air. Un personnage, à un moment, parle de se demande si le rôle des artistes va être d'enregistrer des séquences comme un ordinateur pourrait le faire. Il y a évidemment je pense qu'il y a un petit clin d'œil à ce qu'elle est en train de faire. Non, elle enregistre pas bêtement des séquences, déjà parce qu'il y a quand même ces thématiques qui reviennent qui ne sont pas un hasard. Et il y a aussi, enfin, je dirais que plus largement, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on lit, enfin, moi, j'ai lu, en tout cas, ce livre très rapidement, c'est-à-dire sans pouvoir le poser. Il y avait, je trouvais, une forme de tension. Dont je me suis demandé d'ailleurs d'où elle venait, parce qu'en fait finalement il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de suspense, et pourtant je me suis surprise à avoir envie de tourner les pages, à avoir envie de savoir ce qui arrive, quelle va être la prochaine personne à être rencontrée. Et je trouve que c'est une leçon d'écriture, enfin c'est une, il y a un côté atelier d'écriture autour de l'atelier d'écriture qui est ce livre. Voilà, il est très, je dirais qu'il est beaucoup plus programmatique, ou en tout cas on sent qu'il y a une tentative de quelque chose, d'une nouvelle forme là, comparé aux autres romans beaucoup plus classiques. Et une des leçons qu'on peut tirer de ce livre, c'est qu'en fait tout fait littérature, pour peu qu'on veut bien se donner la peine de regarder, d'écouter, que chaque anecdote, que chaque personne qui marche dans la rue, un des exercices que l'écrivain donne à ses étudiants, c'est de noter tout ce qui se passe dans la rue le matin. Elle-même va d'ailleurs donner des indications à son fils au téléphone et lui expliquer comment rentrer chez lui en parlant de indications dans la rue. Il y a plein de choses très fines, très amusantes, très intelligentes sur ce que c'est qu'écrire. Voilà.
Alors vous avez dit que ça se lisait vite avec un petit sourire dans la voix que nos auditeurs et auditrices auront peut-être entendu. C'est parce qu'avant le début de cette émission, je vous disais que ça ne se lisait pas vite. Rachel Kos, que vous avez pu prendre pour une critique envers ce livre, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est l'avis des critiques que nous sommes. Et des fois, moi j'aimerais pouvoir passer plus de temps et lire plus lentement des livres qui sont assez compacts, en tout cas comme celui-ci. C'était pas une critique, mais parce qu'effectivement il y a tellement de strates et tellement de pistes, parce que vous avez évoqué aussi ses premières rencontres, la toute première, hein, c'est elle doit rencontrer quelqu'un pour parler, sauf que c'est l'autre qui lui parle, et ça va être un peu ça aussi le leitmotiv de ces rencontres, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à son intériorité, c'est peut-être parce que les autres ont tellement besoin de projeter la leur que ça lui est difficile à cet écrivain. Florent Jean-Jesco.
Oui, ce qui est vraiment le fondement du livre, c'est un livre c'est l'histoire de quelqu'un qui se tait, soit parce qu'elle ne peut pas remplacer une, parce qu'en effet les autres ont très envie de parler. Il y a des notations assez drôles sur ça, notamment dans l'avion quand elle rencontre ce grec. Par moment, vers la fin d'une très longue tirade, il lui dit « Et vous ?» Et bien entendu, il lui laisse 5 secondes pour répondre.
Enfin, donc, c'est le seul quand même qui lui demande de ses nouvelles.
Oui, c'est un peu le seul. Mais ce principe est un principe passionnant que je trouve, moi, ce livre ne tient pas. Il y avait quelque chose à en tirer, et au fond, elle n'en tire que, je trouve, que le concept même. Parce que c'est justement... elle parasite en permanence ce qu'il y a de recherche, d'observation, parce que il est vrai que le côté atelier d'écriture est intéressant. Tous les conseils qu'elle donne sur le fait de regarder autour de soi pour pouvoir écrire sont très justes et très passionnants, mais je ne trouve pas qu'elle tienne compte suffisamment elle-même de ces conseils. Il y a une manière de réduire en permanence le discours sur la vie à une grille conceptuelle qui est assez chiant, je trouve. Et il y a un passage, par exemple, assez beau, quand elle parle du dos d'un homme.
Oui, la nuque.
C'est où elle parle de ce dos comme un pays étranger, où elle se perd au moment où elle contemple le dos nu d'un homme sur un bateau. C'est un très beau passage qui finit par, parce qu'elle enchaîne sur une autre idée, ses idées... les idées qui l'ont amené là sur ce bateau seul avec un homme, ce qui pourrait surprendre des gens, alors qu'il ne se passe rien entre cet homme et lui et elle, pardon, malgré ce qu'il veut lui, et elle finit: la vie des autres ne m'était plus d'aucune aide, ces idées n'existaient que dans certaines structures et j'avais mis ces structures derrière moi une bonne fois pour toutes. C'est pas, je ne suis pas en train de faire une citation pour montrer un mauvais passage du livre, je suis en train de montrer ce qui est pour moi le concept, enfin le mode de fonctionnement intellectuel du regard de Rachel Kusk dans ce livre, qui est au fond créer un dispositif absolument passionnant d'observation du réel et le réduit en permanence au concept qui permet de ranger et de cataloguer ce réel, de sorte qu'on se retrouve extrêmement asséché là où le principe était extrêmement libérateur. Et ça finit pour moi par faire un livre assez prévisible, sincèrement, peut-être que parfois on devrait faire l'émission comme ça, j'aurais pu ne pas lire ce livre, j'aurais essayé de vous raconter à partir du principe.
Ouais, il y a d'autres qui ont essayé avant vous, mais ils sont plus dans l'émission.
Mais ils sont dans certains journaux, en revanche.
Oui, d'accord.
Parce que je vous assure que j'aurais pu de temps en temps tomber juste. C'est-à-dire, comment un livre fabriqué sur ce dispositif-là ne serait-il pas passé par la scène où elle arrive dans l'appartement qu'elle loue à Athènes et où elle fouille toutes les pièces pour trouver la trace de la vie de la propriétaire, étant donné que ce livre est porté par son ouverture à la vie des autres. Je ne vais pas dire comment il se finit d'ailleurs, mais même la dernière rencontre qu'elle fait est assez prévisible, et les ateliers eux-mêmes, toutes les scènes, parce que donc le livre est d'une structure très simple avec rencontre d'inconnus parfois récurrentes, et au milieu de ça, deux ou trois longues scènes dans cet atelier d'écriture qu'elle vient animer à Athènes avec les longs récits faits par les participants. Ces scènes-là sont absolument prévisibles, puisque dès le départ on savait qu'elle allait faire un atelier. Je savais, moi, que puisque il s'agissait de faire parler les autres à foison, à la place de la narratrice, l'atelier donnerait lieu à cet exercice. Et par conséquent, une fois de plus, je me retrouve devant quelque chose que je pouvais prévoir et qui ne crée pas le mouvement que le principe passionnant du livre pouvait créer.
Elisabeth Franck Dumas ?
Non, bah évidemment, moi, c'est pas comme ça que je l'ai lu. Alors, déjà, les scènes... là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a certaines scènes dans l'atelier d'écriture où on sent qu'elle ne peut pas résister à nous faire rire. Voilà. Donc, il y a quelques réactions un petit peu prévisibles. Il y a une femme qui fait un récit extraordinaire, celle qui bat son chien. Parce que ses enfants lui ont fait acheter ce chien, ne s'en occupe pas et le chien mange le... Enfin bon, il y a une montée en puissance comme ça, absolument extraordinaire. Et la seule réaction au récit de cette histoire qui est vraiment incroyable, c'est « Oh, mais tu n'avais pas dû acheter le bon chien ». Bon, il y a des petites choses comme ça d'humour peut-être un petit peu facile. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un exercice desséchant. Je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'elle elle-même a une vision assez astringente, enfin voire sèche des rapports humains peut-être, une certaine sévérité, peut-être une forme de moralisme, parce qu'il y a un jugement aussi. Là-dessus, je suis assez d'accord. En revanche, je n'ai pas trouvé que ces histoires étaient prévisibles. Sont des esquisses, enfin, sont comme des débuts d'intrigue, des débuts de romans. C'est d'ailleurs le titre en anglais. C'est
oui,
vrai
c'est ce que
style,
dire,
c'est
exactement.
Très beau, mais le titre anglais était outline. C'est alors
la
ça peut être soit un
silhouette.
Contour, une silhouette, soit the outline, enfin le outline d'un livre, c'est le plan. Voilà. Voilà, c'est le résumé. Et là, on est d'ailleurs, j'ai lu.
Je crois que le mot est dans.
C'est...
Il y a un passage, j'ai pas pu lire le texte original, mais il y a un passage où apparemment elle utilise ce mot. Vous savez, l'écrivain, il y a une dramaturge qu'elle rencontre qui dit c'est une très belle idée, sincèrement. Qui dit je n'arrive plus à écrire de pièces en ce moment parce que quand je dis le mot jalousie, je ne peux plus raconter une histoire de jalousie. Voilà. Le mot a tout dit.
C'est
et
ça.
Elle emploie, je crois, à ce moment-là, le mot outline. Oui. C'est un peu une clé du livre. Et pour moi, c'est d'ailleurs, c'est un peu ce que je lui reproche justement. Peut-être qu'elle l'assume, peut-être que c'est très volontaire, mais que ce soit réellement asséchant pour le lecteur est un fait pour moi évident.
Et ce que je trouve passionnant, c'est que le livre est toujours tendu entre ces deux tentations. C'est-à-dire, jusqu'à quel moment est-ce qu'on va réduire, est-ce qu'on va caricaturer ces gens, ces personnes, ces situations. C'est-à-dire que jusqu'à quel point est-ce qu'il faut orienter ça et l'organiser pour que ça fasse littérature. Et jusqu'à quel point, au contraire, est-ce qu'on est passif ? Enfin, c'est-à-dire, il y a un passage, pas longtemps d'ailleurs, après, je crois après le passage sur le bateau où elle explique qu'elle n'écoute plus le jugement des gens, elle parle de la passivité, découverte de la passivité, et on voit bien qu'elle est en train de parler de son métier d'écrivain, où elle explique qu'elle était venue à croire de plus en plus aux vertus de la passivité et de moins en moins au volontarisme. Et en fait, elle s'est réconciliée avec cette vérité. Elle avait décidé de ne rien vouloir du tout. Bon, qui ne veut rien du tout ? Enfin, je pense qu'il y a quand même de la distance vis-à-vis du personnage de la narratrice aussi. Enfin,
mais précisément, ça tombe à merveille. J'avais noté ce passage-là aussi. Cette phrase-là, j'avais décidé de ne rien vouloir du tout. Vous avez parfaitement raison. C'est totalement au centre du livre, mais c'est au centre aussi de mes reproches contre le livre, c'est une position, oui, parce que nous lisons bien. C'est une position artificielle, je trouve, enfin qui est schématique en tout cas, qui est outline. Tout découle tout de même de cette position-là, comme elle ne lui donne pas plus de chair que cette pseudo qui décide quoi que ce soit de ce genre. Il y a un artifice prolongé par cette artificialité dont je parlais dans le développement même de l'idée. Juste peut-être un dernier mot, parce que pour dire un peu la mesure de ma frustration devant une si belle idée, je n'ai pas pu ne pas penser à un livre que je tiens pour... il est vrai, donc c'est un peu écrasant pour un immense chef-d'œuvre qui est L'Inconsolé de Figuro, qui est un livre des années 90, Di Figuro, mais qu'on n'a pas assez lu en France et qui est vraiment un des plus grands livres de la fin du XXe siècle, qui au fond part de la même idée. Ça commence par un narrateur qui se retrouve dans l'ascenseur d'un hôtel et le porteur de valise à côté de lui commence à lui raconter sa vie au point qu'on se demande s'il n'y a pas 2500 étages à cet immeuble parce que ça n'en finit pas. Et ainsi, tout le livre, qui est un énorme livre, va se développer autour de ce mélange de l'intérieur et de l'extérieur avec cette sorte de passivité. Mais Ishiguro, à partir de cette contamination mutuelle de l'extérieur et de l'intérieur, crée un monde, crée une logique absolument neuve, ce qui est un livre extraordinaire, qui est une logique narrative complètement irréelle, mais pour le coup pas artificielle, parce que du mouvement créé par le frottement entre l'intérieur et l'extérieur, je trouve que c'est ce qui manque là. Et si on se souvient d'un tel livre, on se dit que Rachel Kusk est peut-être un peu... Pauvre,
alors c'est le premier d'une trilogie, je crois.
Oui,
donc moi, je suis très curieuse de voir ce qu'elle va faire après. Et je trouve quand même, je continue de penser que je trouve l'exercice passionnant de tout ce que ça dit de l'écriture. Il y a un passage où elle explique que c'est pas elle d'ailleurs, c'est une des personnes à qui elle parle, qui dit que les personnes intéressantes sont comme des îles qu'il faut aller chercher, que c'est pas donné, que tout ça n'est pas par hasard. Et là encore, on est dans cette tension de... qui on fait parler, qui on rencontre, pourquoi, à quoi est-ce qu'on décide de prêter attention et comment est-ce que ça fait un texte. Et j'ai trouvé ça très intéressant.
Dis-t-il de Rachel Kusk, c'est aux éditions de l'Olivier, c'est une traduction de Céline Leroy.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et avant de parler de 45 tours, le roman de Mark Green, nous retrouverons l'invité de la dispute, le chef d'orchestre Raphaël Pichon. Nous évoquerons aussi Un été sans fin de Serge Koster et Mademoiselle Haas de Michel Audin. Tout d'abord, Monsieur Guillot avec la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. « Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, monsieur Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Il est des best-sellers qui interrogent, comme celui-ci, dans le classement des meilleures ventes de Der Spiegel. Il a bondi en une semaine de la 11e à la 5e place. Note le correspondant du Figaro à Berlin, Nicolas Barotte. Mercredi 16 mars, relève Télérama, il figurait en 2e place du classement des essais pour la 5e semaine consécutive. Un peu plus d'un mois après sa publication, poursuit le Figaro, l'édition critique de Mein Kampf est un succès de librairie. 33 000 exemplaires de ce pavé en 2 tomes ont déjà été vendus. Le livre est en rupture de stock et il faut attendre parfois plusieurs semaines pour le recevoir. Seulement 4 000 exemplaires avaient été initialement imprimés. Le prix 59 € n'a pas rebuté les lecteurs curieux de découvrir l'objet tabou, pas plus que les 2 000 pages et les 3 700 notes. Il y a 3 raisons à cet intérêt, juge Christian Hartmann de l'Institut IFZ qui a édité cette édition critique. L'historien, à l'origine du projet, a supervisé l'ensemble de l'étude du pamphlet. Tout d'abord, explique-t-il, Mein Kampf a été interdit jusqu'à aujourd'hui et nous vivons dans une société qui connaît peu de tabous. Cela suffit à rendre les gens curieux. Ensuite, Mein Kampf constitue une relique du Troisième Reich qui était ou reste présent dans beaucoup de familles. Les gens veulent connaître la vérité, entre guillemets. Enfin, cet intérêt est le résultat de la confrontation de l'Allemagne avec le national-socialisme, ce qui n'est pas nouveau. L'historien balaye donc les remarques sur un succès éditorial du livre-programme d'Adolf Hitler. Il ne s'agit pas d'un succès de Mein Kampf, mais de notre édition, insiste-t-il. Cela n'aurait pas pu mieux se passer. Nous avons occupé un terrain dont d'autres auraient pu abuser. C'est un succès d'un regard critique sur Mein Kampf. C'est pourquoi je dirais mission accompli. L'ouvrage n'a rien d'une étude universitaire basique. Il laisse une impression étrange avec ses 2 volumes aux couvertures épaisses gris-souris et aux pages en papier de qualité qui en font un beau livre qu'on serait presque tenté de mettre en évidence dans sa bibliothèque. À l'intérieur, le texte entier d'Adolf Hitler est placé au centre des pages. Dans les marges s'accumulent les commentaires et les analyses comme pour le cerner. À l'Institut IFZ, on assure que les acheteurs sont avant tout des scientifiques ou des passionnés d'histoire. Il est d'autres best-sellers qui sont lus, eux, par des détenus, leurs avocats et des juges. Cette journée du 18 mars, Édouard Louis l'aura passé entre les murs du palais de justice de Paris, raconte notre consoeur en dispute Émilie Barnett dans Les Inrecuptibles, après la polémique déclenchée par En finir avec Eddie Bellegueule en 2014. Avec Histoire de la violence, Louis est-il allé trop loin, s'interroge-t-elle. Nouvelle puissante démonstration de la violence comme produit d'une structure sociale, l'auteur y met en scène son propre viol, suivi d'une tentative de meurtre en décembre 2012 à Paris par un homme d'une 30aine d'années nommé Reda. La presse a salué ce livre, en général, où il n'y a pas une seule ligne de fiction, comme le déclarait l'auteur à Livre Hebdo. Et voilà que 4 jours après sa parution, l'homme que l'écrivain accuse d'avoir tenté de le tuer est arrêté pour une affaire de stupéfiants. On l'identifie grâce au relevé de ses empreintes. Il a déjà fait plusieurs mois de prison pour vol en 2014, qui coïncide avec les traces d'ADN prélevées dans l'appartement de l'écrivain. Écrivain, Riyad B, alias Reda, est placé en détention provisoire. Et aujourd'hui, c'est lui qui porte plainte contre Édouard Louis. Parmi les griefs révélés par l'Obs, les avocats du plaignant, Thomas Ricard et Mathieu de Valois, évoquent l'ordonnance de la juge des libertés qui a utilisé la parution du livre comme une circonstance aggravante, justifiant le placement en détention de leur client. Le présumé agresseur et héros, entre guillemets, du deuxième livre d'Édouard Louis l'a donc attaqué en justice pour atteinte à la vie privée et atteinte à la présomption d'innocence. Il exige qu'un encart soit placé dans chaque exemplaire, ainsi que 50 000 € de dommages et intérêts. Pour l'avocat du romancier Emmanuel Pierra, le personnage de Reda n'est pas reconnaissable. Il s'indigne en revanche qu'on ait mis 3 ans à l'arrêter. En France, mieux vaut ne pas être violé quand on est pédé, déclare-t-il. La justice et la police se réveillent quand une histoire de viol devient un best-seller. Encore selon l'Obs, qui a rencontré le compagnon de Reda, ce dernier reconnaît avoir passé la nuit avec lui, mais il ne l'a jamais violé et n'a jamais eu d'arme en sa possession. L'identification de gens réels dans une œuvre littéraire n'est évidemment pas un fait rare. Il a valu bien des tracas aux auteurs assignés en justice par leur muse, entre guillemets. Parmi eux, Christine Angot, Philippe Besson, plus récemment Éric Reinhardt. En revanche, qu'un roman puisse servir de pièce à conviction dans une affaire pénale serait un cas inédit. Aux États-Unis, certains noms d'écrivains sont associés à l'élucidation partielle d'affaires criminelles, comme Robert Graysmith et son livre Enquête sur le tueur du Zodiac, mais on imagine mal Édouard Louis en apprenti détective semant dans son récit des indices pour coincer son supposé agresseur. Histoire de la violence comporte un passage où lis avoir hésité à porter plainte. Je disais seulement que je ne voulais pas que cette histoire s'étire sur les mois à venir. J'expliquais qu'une procédure me forcerait à me répéter encore et encore, que ce qui s'était passé deviendrait d'autant plus réel. Reste que le jeune écrivain a l'art de s'empêtrer dans des situations fâcheuses. Après, Eddie Bellegueule le voilà pris dans un imbroglio juridique. Étrange immixtion de la réalité dans un romanesque qui n'en manquait déjà pas, commente David Le Bailly dans L'Obs, comme si, se poussant du col, elle venait réclamer la part de lumière qui lui était due. Étrange confusion aussi, un livre devenant potentiellement un élément à charge ou à décharge dans une instruction pénale.
Commentaire, Florent Georgesco ?
Il faut se retenir dans certaines situations, il faut se retenir sur la pente de la mesquinerie. Je dois dire que Édouard Louis, auteur de deux mauvais livres qui se manifestent dans la vie intellectuelle par des oukases absolument atroces et stupides, est quelqu'un dont on a envie de se moquer, mais en l'occurrence, retenons-nous sur cette pente, ça devient absolument lassant de voir la justice se mêler de livres sous prétexte qu'ils s'occupent de réalité, ça devient absolument ridicule en l'occurrence. Évidemment qu'il a parfaitement et mille fois le droit d'écrire ce livre sur l'expérience qu'il a vécu et qu'on est dans la farce quand on voit son présumé violeur porter plainte contre lui. Enfin voilà, si quoi que ce soit arrive à ce livre, quoi qu'on en pense, il faudra le défendre parce que on est devant une absurdité. Je me permets de dire que la juge des libertés qui se permet de citer un livre fait quelque chose d'absolument ridicule et déplacé, enfin qui n'a absolument pas sa place dans sa décision judiciaire. Donc si ce n'est pas l'auteur en l'occurrence qui confond réalité et fiction, d'ailleurs il n'a jamais prétendu qu'il y avait de fiction là-dedans, qui confond les plans en tout cas, c'est la justice et ça devient assez embêtant pour la liberté d'expression.
Elisabeth Franck Dumas.
Oui, je suis entièrement d'accord avec Florent Georgesco, enfin, c'est là on atteint quand même un niveau de grotesque. C'est sidérant, il a le droit d'écrire dessus, en plus, comme le faisait valoir son avocat, le personnage. Enfin, il est impossible d'identifier le personnage par ce livre. Donc maintenant, il va falloir faire attention quand on est...
C'est le personnage lui-même qui s'est identifié, finalement. Et
exactement, enfin, son ADN,
c'est le personnage
lui-même. Oui, enfin, c'est lui qui a cité le livre.
Ce n'est pas un livre qui a été écrit à charge, quoi qu'on pense du projet littéraire, c'est absolument pas là qu'il est allé. Je ne vois pas pourquoi on se demande s'il est allé trop loin. Alors, c'est intéressant quand même, cette remarque, qu'il a le don de se mettre dans des situation. Mais alors, il y a ces prises de parole, il y a tout ça, mais là, en l'occurrence, c'est pas lui qui s'est mis dans cette situation. On l'a mis dans cette situation. Et pareil, en finir avec Eddie Bellegueule, si je me souviens bien, à l'époque, c'était le journaliste, je crois, de L'Obs aussi, qui était allé voir chez lui ce qui s'y passait. Et là encore, c'est pas lui qui s'est mis dans cette situation. Il faudrait plutôt se poser la question, mais pourquoi est-ce que tout le monde a envie de mettre Édouard Louis dans ce pétrin-là ? Ça, je pense que...
Mais peut-être qu'aujourd'hui, malheureusement, un écrivain qui s'occupe de réalité, qui veut raconter le réel, se retrouve toujours dans des situations dangereuses. C'est assez, en effet, absurde de dire qu'il se met toujours dans un pétrin. C'est la réalité qui met tout le monde dans le pétrin aujourd'hui, vu sa judiciarisation. Enfin, c'est à ça qu'on a affaire. Là.
Et pour remonter un peu le fil de la revue de presse, vous avez des nouvelles sur l'édition critique française de Mein Kampf, qui est annoncée, qui est en cours d'élaboration. C'est l'édition allemande et son succès.
C'est une excellente nouvelle, à mon avis. On a plus que jamais, je crois, besoin de connaissances sur ce sujet. Cette édition, je ne l'ai pas lue, mais semble apporter toutes les garanties d'une connaissance rigoureuse. C'est tout ce qu'on a demandé. Par ailleurs, les chiffres de vente sont dérisoires par rapport aux chiffres de téléchargement possibles et réels de Mein Kampf sur Internet, dans des éditions bâclées qui circulent dans des milieux que je vous laisse imaginer. Par conséquent, ça me paraît une excellente nouvelle et j'espère que ce sera la même chose en France.
Oui, de s'emparer de ça. Enfin, de s'emparer du texte, d'en revenir au texte. Après, l'idée que grâce à ça, on va connaître la vérité. Bon, je crois que la vérité dépasse de loin.
C'est ça qu'il y avait des guillemets.
C'est un processus infini dont Mein Kampf fait partie.
Voilà, oui, tout à fait. Mais ça va. Enfin, je veux dire, ça va apporter aucune réponse définitive, mais
une connaissance.
Mais c'est une bonne chose, oui.
Bien. Alors, connaissons un peu mieux maintenant les livres dont vous avez envie de parler au mi-temps de cette émission. Elisabeth Franck Dumas, vous avez envie de parler d'un livre de Michel Audin.
Oui, Michel Audin, qui est mathématicienne et membre de l'Oulipo. Donc, quand je vous dis qu'elle est membre de l'Oulipo, vous attendez un certain systématisme, Contrainte, des contraintes, voilà, qui dit Oulipo dit contrainte. Alors, quelles sont les contraintes de ce livre? Ce serait de raconter l'histoire de France, ou l'histoire des femmes de France, ou de certaines femmes, travailleuses, ouvrières, indépendantes, émancipées, entre 1934 et 1941. Avec, pour contrainte supplémentaire, de ne raconter que les vies de femmes qui s'appellent Mademoiselle Az. Donc il y en a 19. On raconte une journée de leur vie, du 6 février 1934 au 21 août 1941. Si vous allez sur Internet, vous comprendrez le pourquoi du comment de ces dates, par exemple. Vous prenez un livre d'histoire. Et le résultat est absolument passionnant. Il y a celle qui voulait avorter, c'est la première, Mademoiselle Az, c'est absolument extraordinaire, qui est prise dans les manifestations d'extrême droite qui ont eu lieu le 6 février 1934. Il y a celle qui était sage-femme, parce que souvent ça fonctionne par pair, les histoires se répondent d'un chapitre à l'autre. Celle qui a voulu retrouver son père, celle qui est orpheline mais doit changer de nom, parce que c'est un peu gênant, elle a peur que Az la désigne comme juive, même si une petite note dans l'épilogue explique que c'était un nom très commun, qui n'était pas forcément juif. On balaye en fait à travers ces existences, voilà, ces vies minuscules, encore une fois, à travers ces existences-là, on balaye un pan énorme de l'histoire. C'est merveilleux, c'est très touchant. Le programme, le projet du livre, il est décrit en première page, je vais vous le lire. Elles ont 20 ans ou 30 ou un peu plus en 1934. Elles travaillent. Voilà, ça c'est important. Elles s'appellent Mademoiselle Az. Elles sont bibliothécaires, adjointes, concierges, cuisinières, coiffeuses. De quoi parlaient les femmes chez la coiffeuse d'Abbeville en 1938? Première main floue, fraiseuse, infirmière, écrivaine, femme de chambre, institutrice. Ah, mais presque toutes avaient rêvé de devenir institutrice. Journaliste, femme de ménage, chef de travaux, ouvrières, métallurgistes. Elles ont eu 60 ans, ou 70, ou un peu plus en 1974. Peut-être, j'avais 20 ans, j'ai pu rencontrer l'une ou l'autre dans une manifestation ou ailleurs. Voilà, et c'est le projet pourrait sembler humble comme ça, alors que c'est un énorme travail de recherche qui se cache derrière, et de recherche formelle aussi, puisqu'il y a une tentative de donner à chaque chapitre une forme littéraire différente. Il y en a un qui se déroule entièrement sous forme de questions-réponses, un autre. Bon, et c'est un projet qui mérite vraiment d'être partagé. Dans l'épilogue dont je parlais tout à l'heure, Michel Audin explique que l'épilogue contiendrait le nom de Jeannette Az, qui avait 93 ans lorsqu'on prit la peine le 10 février 1944 de la mettre dans un train pour Auschwitz. Et la liste des 36 autres femmes portant le nom Az, que le mémorial de la Shoah recense parmi les victimes françaises de la déportation, avec le commentaire que Az, l'élève en allemand, est un nom de famille assez courant, juif ou pas. Bon, elle aurait aussi pu parler de la loi Veil, elle aurait pu parler de plein de choses. On comprend l'ambition du projet. Il y a vraiment un pan de l'histoire de France et de l'histoire de femmes qu'on a pu oublier, auxquelles on ne s'est pas vraiment attaché, qui est merveilleusement et très littérairement rendu. Voilà.
Mademoiselle Az, Michel Audin, édition...
C'est L'Arbalète.
L'Arbalète, hein, Michel Audin. Les fidèles à cette maison. Parlons à présent d'Un été sans fin, on aimerait bien. Serge Koester, cette fois c'est édition Pierre-Guillaume de Roux.
Oui, c'est un de ces petit livre sans genre, sans forme presque, sinon une langue comme toujours magnifique chez Costet, mais ces petits livres comme de conversation. Comme les derniers livres de Gide, par exemple, Ainsi soit-il, ou Et nunc manet in te. Quelqu'un d'âgé, quelqu'un vers la fin de sa vie, prend la parole, ou plutôt tient la parole, il n'a jamais voulu la lâcher, comme tout écrivain. Il sait que la fin s'approche, il sait que il n'y a peut-être plus grand-chose à dire, mais il faut le dire quand même, parce qu'il faut parler, parce que c'est ça l'écriture. C'est une très longue conversation avec quelques lecteurs, et Serge Koester, dans ce livre, analyse un peu ce quelque, car il fait de ce livre, c'est de cette conversation très intime, au fond, avec son lecteur, un livre peut-être parfois de plainte, un livre mélancolique, voire amer parfois, où il affronte en face la réalité de sa vie. Il parle justement, je parlais de quelques, il parle d'une sorte d'échec de sa reconnaissance comme écrivain, du fait que ses nombreux livres et quelques-uns magnifiques n'ont pas toujours trouvé un vaste public. Il parle de la maladie, il parle en l'occurrence de la maladie de Parkinson qui le gagne, qui un temps l'empêchait d'écrire, sinon un peu comme Robert Walser à la fin de sa vie en micrographie. Il parle de toutes ces difficultés, de tous ces échecs en partie. Il parle avec une lucidité très dure de ses rapports avec sa fille. Et ce sont des pages assez rares sur un père qui avoue qu'il n'y a pas eu de relation avec sa fille, que cette chose a été un échec. Il y a tout cela dans ce livre qui pourrait être lugubre, qu'il est par moments, mais qui a cette sorte de vitalité, de cette volonté de dire jusqu'au bout, et cette sorte de férocité, de la lucidité qui... Lécoster a écrit un livre sur Léo Tau, notamment, il y a quelque chose de ce ton de Léo Tau, justement parce qu'on est peut-être désespéré, en tout cas très froid dans le regard sur sa vie, on a d'autant plus de mouvement dans l'écriture. Et puis il y a des éclaircies, d'où le titre, et notamment tout ce qui touche autour de sa femme, dont il dit que... Ils ont vécu ensemble, je crois, 60 ans de leur vie. Je peux peut-être citer un court passage. Le frère de sa femme vient d'aller... tout n'est pas toujours... d'aller à Zurich pour subir un suicide assisté. Ils reviennent. Et Serge Koster dit à sa femme, il n'y a rien à dire de la mort, on est là, on n'est plus là. Je regardais ton frère à Roissy, il était là, il n'est plus là. Pas de survie, pas d'au-delà, on n'est plus rien à jamais. Ainsi dégoisais-je. Commente-t-il, et je sentais ses doigts, les doigts de sa femme, me pétrir le bras, ce qui avait pour effet une incroyable sensation de vie à cet endroit de mon corps, un concentré de sentiments de mon éphémère existence, éternisée à son flanc. Voilà, je crois que ça donne une idée de la très grande beauté, de la très grande force de ce livre.
Un été sans fin, un livre de Serge Koster aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Dans quelques minutes, nous parlerons du livre de Marc Green, 45 tours. Avant cela, nous allons retrouver l'invité de la dispute, le chef d'orchestre Raphaël Pichon, dont vous pouvez retrouver toute l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ?
Raphaël Pichon, parlons ce soir de livres, littérature, essais, bien sûr, ils ont tous droit de citer. Dans vos métiers, en voyage, souvent, on est souvent loin de chez soi, il y a quel type de livres dans vos valises ?
Eh bien, pour être très franc, tout d'abord, beaucoup de livres un peu cyclothymiques, c'est-à-dire... Comme je vous le disais au début de la semaine, quand nous abordons un nouveau programme, quand j'ai dans la tête un nouveau projet, j'ai un peu un besoin indispensable de lire beaucoup. Donc là, je vais parler d'abord de musique, c'est-à-dire beaucoup de livres de recherche, d'essais, beaucoup de biographies, de livres qui vont parler aussi d'une institution, d'une époque, d'un contexte, d'une particularité d'un compositeur. Ça, c'est des choses qui m'occupent beaucoup, donc c'est les premiers livres qui m'entourent. Ça peut être aussi des correspondances, ça je trouve ça absolument fascinant, une façon assez inédite et inouïe d'approcher un compositeur dont on sait qu'une correspondance n'est pas toujours évidemment objective. Par exemple pour Mozart, on a quand même une somme de correspondances tous azimuts absolument inouïes, sur tous les tons, parlant de tous les sujets, aussi bien de musique que de la vie. Et ça c'est des moyens vraiment géniaux pour nous musiciens pour découvrir des compositeurs. Donc avant tout des livres de musique, et un peu par coup de cœur, par coup de foudre, par rencontre, par hasard, des choses très diverses. J'aime beaucoup le voyage au sens large. Alors souvent c'est des coups de cœur où je retrouve un peu cette donnée-là, ce point commun qui va relier différents ouvrages, différents livres un à un, sans pourtant qu'ils aient aucun autre point commun. Alors ça peut être un voyage aussi historique. J'aime beaucoup les romans historiques. J'ai toujours été aussi, ça c'est peut-être aussi un petit peu générationnel, totalement fasciné par toute l'époque des années 30 jusqu'aux années 50 et aussi toute la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme. J'ai lu beaucoup de choses autour de ça. Mais dernièrement, ça pourrait être, voilà, je parlais de voyage, Sylvain Tesson, ça pourrait être Emmanuel Carrère, ça pourrait être aussi des romans biographiques, ça c'est quelque chose qui me plaît aussi, notamment de grandes personnalités du passé. J'ai le souvenir de ces biographies un peu romancées de Sophie Chauveau sur différents peintres ou différents poètes. C'est des façons de rester avec un pied dans la musique et dans ce qui m'occupe et des choses qui ont évidemment beaucoup de liens avec mon activité et en même temps une façon de s'échapper indispensable dans ces vies un peu particulières.
Et est-ce que vous avez un goût pour alors bande dessinée ou roman graphique ou manga, pourquoi pas ?
Pas du tout. Manga, pas du tout. Bande dessinée, oui. Surtout que alors ça c'est peut-être parce que je connaissais pas vraiment avant, mais j'ai la sensation aussi que il y a de plus en plus de bandes dessinées de qualité, autre que la bande dessinée de divertissement. Je pense évidemment à toutes ces BD qui s'emparent aussi de sujets d'actualité, de sujets sociaux. Il y a eu beaucoup de choses là à Noël. On a vu ces différentes BD. Alors je crois qu'il y en a eu plusieurs qui ont eu un grand succès. Je vous dirai pas les titres ni les auteurs, même si je les ai à vrai dire achetées et toutes lues à Noël. Il y a celle qui s'imagine avec Marine Le Pen à la tête de l'État. Il y a celle qui nous retrace en détail c'était passionnant ça d'ailleurs, le procès du maréchal Pétain. Il y avait évidemment Quai d'Orsay, par exemple, qui a malheureusement donné, d'ailleurs on parlait de cinéma il y a quelques jours, un film qui malheureusement était quand même bien décevant.
Pas au niveau.
C'est quand même un bon navet. Quai d'Orsay, ou comment il s'appelle déjà ce journaliste qui nous a livré des BD de chaque pays où il est passé, qui ont eu un grand succès.
Oui, je cherche son nom aussi. Alors, on aura du mal ensemble parce qu'on en a parlé régulièrement dans cette émission, mais qui a parlé aussi bien.
Voilà. En tout cas, ce genre de... Ouais, ce genre d'ouvrage, je trouve ça absolument plaisant et enrichissant. Ça vous demande peu de temps. C'est vite lu, c'est distrayant et quand c'est bien écrit, c'est aussi une façon de rester en contact avec d'autres formes plus faciles, plus fugaces que la littérature, je dirais au sens noble du terme. Voilà, c'est tout à fait des choses qui peuvent arriver jusqu'à moi.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le vendredi soir à la littérature, mais il va être question de musique, on s'en doute, avec 45 tours, le livre de Marc Green, publié chez Rivage.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there was.
Alors, le 45 tours du titre, ce n'est pas My Way, tube ultime, mais c'est un tube des années 80, 1985 pour être précis, Les Nuits Samouraïs. Le tube pour Frank, le narrateur du livre de Mark Green, co-auteur du tube avec son ami Richard, un tube qui allait changer leur vie, comme nous le raconte Frank, dans un retour permanent entre l'histoire de ce tube, avant, pendant, après, puis sa vie présente dans la campagne bourguignonne, je vais dire le tout début de ce livre publié chez Rivage. « Longtemps, j'ai eu peur d'une chanson. Je refusais de l'écouter, j'interdisais aux gens de la passer, c'était au-dessus de mes forces. Ils essayaient quand même, je les arrêtais. Non, pas la chanson, pas le tube. Je ne voulais plus en entendre parler. Pourtant, ce n'est pas mon genre. Je suis du genre à tout accepter, à tout écouter. N'importe qui peut me dire ce qu'il pense. Je n'ai pas d'armure, pas d'écluse. Mais le tube, non. » Mon système nerveux n'était plus en mesure de le supporter. Cette association de notes, en définitive si simple, j'aurais voulu l'effacer, cette insignifiante combinaison de notes. Si j'avais pu l'annuler, la défaire, la détricoter. Ce miracle, j'aurais voulu qu'il n'ait jamais eu lieu. Ces quelques secondes pendant lesquelles, ces instants de grâce, soi-disant, j'étais entré dans un tube. Quelques secondes avaient suffi quand j'avais chanté l'air pour la première fois. Les fameuses 8 notes. Vous avez la partition, Florent Georgesco?
Je l'ai cherché pendant toute la lecture de ce livre. Ce livre est dans son principe même une gageure, puisqu'il tourne entièrement autour de 8 notes qu'on n'entendra jamais, qui ne sont pas notées sur une portée dans le livre. Et il est construit autour d'une chanson fantôme, en quelque sorte. Et ce qui exprime assez bien ce que Mark Green fait là-dedans, il y a le mot miracle dans le début que vous avez lu. Ce livre est l'histoire d'un miracle raconté comme une catastrophe. C'est donc en quelque sorte l'histoire de l'impossibilité du miracle, parce que c'est peut-être le plus grand. Enfin, c'est l'histoire d'un type qui a gagné au loto, pour simplifier. Pour prolonger un tout petit peu le résumé, Frank, le narrateur, chantonne, qui n'est absolument pas musicien, chantonne tout à fait par hasard à un copain qui lui se pique d'être compositeur. Chantonne ses 8 notes. Il a tout à coup une mélodie qui lui passe par la tête. Par bonheur, le copain Richard est capable de noter ça, et c'est ainsi que ensuite, faisant une maquette dont rien ne sera retenu sauf ces 8 notes, ils acquièrent la fortune et tout ce que vous voulez avec. Histoire donc, anecdote très simple, qui pourrait faire l'objet de... qui est en partie d'ailleurs une manière de plonger dans les années 80, dont il a un sens extrêmement précis, notamment sur la topographie sur Paris dans les années 80. On peut, selon le quartier qu'on habite, on peut voir ressusciter des magasins là où on en connaît d'autres, et ainsi de suite. Il a une vision très précise de ça. Il y a quelque chose sur l'esprit, une forme d'esprit des années 80. On est du côté des tubes, la naissance des clips, enfin tout le top 50, etc. On voit des scènes sur la maison de disques, on voit un producteur qui ressemble à tout ce qu'on pouvait imaginer ou avoir vu dans ces années-là. Mais c'est pas du tout, au fond, le propos du livre. Mark Green est un romancier assez intelligent pour donner une épaisseur et avoir un sens du concret en tout, alors qu'il fait tout autre chose, qui est une sorte de fable métaphysique à partir de ça. Parce qu'encore une fois, le paradoxe initial, le récit extrêmement sombre de cette conquête absolument radieuse de la gloire, pousse le livre tout de suite vers une sorte de radicalité discrète, formellement, mais qui ronge absolument tout le récit. Il faut dire que il est construit sur une alternance de flashbacks, c'est-à-dire du récit de la création de ce 45 tours, et de scènes au présent où on voit Frank, le narrateur, retiré dans la maison de famille, dans un village, dans une campagne désertée, devenu une sorte de demi-fou qui le soir sort pour aller ramasser des mottes de terre, de toutes sortes de terre, et qui ramène de la terre chez lui. Procédé extrêmement simple, qui justement pousse la lecture vers une interprétation, vers une forme de radicalité de la lecture de ce livre, qui est en réalité profondément un livre sur une sorte de trouer dans la réalité, une sorte de le tube, c'est ce dans quoi on plonge. Il parle en fait d'une solitude radicale, de l'échec de la rencontre en tout, car ces gens auront auront fait danser des millions de gens, auront rencontré des millions de gens partout dans le monde et n'auront jamais en fait rencontré personne. À un moment, le narrateur dit au tout début de leur aventure discographique dans la maison de disques, moi j'étais heureux d'être là, il parle du plaisir de rencontrer, de voir des visages, d'être dans une aventure collective. Mais cette aventure collective, alors même qu'elle ira au bout, qu'il n'y aura strictement aucun échec, ne sera pas collective, ne sera pas le lieu de la rencontre, mais sera au contraire la découverte d'une solitude absolue, radicale, comme si en réalité, Mark Green racontait l'histoire d'une solitude qui est avant tout et que rien ne compense, quand bien même on rencontrerait le monde entier à travers un succès extravagant.
Elisabeth Franck-Dumas sur 45 tours.
Alors, moi je pense exactement le contraire. C'est-à-dire que j'ai commencé par m'ennuyer. Parce que on nous raconte, on sait dès la première page que ce tube est une malédiction. Et je trouvais que là encore, alors vous auriez peut-être pu résumer Rachel Cusk en une phrase, là, c'est l'histoire d'un, voilà, ils font un tube mais en fait c'est pas bien. Enfin, je caricature, mais en gros, je trouvais que ce pitch-là, on peut le résumer très rapidement.
C'est pas ça qui se passe dans le livre.
Elle va développer.
Mais je trouvais qu'on descend, c'est-à-dire que c'est très, très, très délayé, l'histoire de la fabrication de ce tube. On descend à un niveau de détail sur des actions assez banales qui me semblent totalement inexplicables. Il y a un style très plat, c'est très délayé. D'ailleurs, il y a une abondance de points de suspension. Enfin, il y a quelque chose comme ça que j'ai trouvé. Bon, comme je savais que c'était un choix de Florent Georgesco et qu'il y avait une raison derrière, je me suis accrochée. Mais sinon, je l'aurais lâché, je pense, assez rapidement. Je trouvais que Richard, qui est l'autre moitié du duo qui compose ce tube, était finalement assez caricatural. Je trouvais que tout ce milieu était assez caricatural. Bon, arrive le moment où il parle de sa vie aujourd'hui, où il explique qu'il sort avec de la terre sur le visage. Donc, on se dit, ah oui, là, il se passe quelque chose. Bon, alors, on continue à lire. En fait, non. Moi, c'est vraiment pas le côté fable métaphysique qui m'a intéressée, parce que ça, je l'ai trouvé assez caricatural et assez attendu. Le fait qu'il ne rencontre personne, je trouvais que ça faisait un livre assez désincarné. En revanche, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce dont vous parliez, c'est-à-dire cette description des villes de cette époque des années 80. Il y a des passages sur les Champs-Élysées que je trouve absolument remarquables. Si on a le temps, j'en lirai un ou deux.
Ça commence par, à cette époque, les Champs-Élysées étaient encore les Champs-Élysées. C'est une phrase déjà, voilà, oui. De mémoire. Hein, je crois qu'il y a quelque chose comme ça.
Il flottait encore un parfum particulier, un air d'insouciance et de nouveauté hérité de la libération et de l'après-guerre. C'était un quartier cosmopolite, un peu américain. L'un des seuls quartiers de Paris à n'avoir pas pour vocation d'être pittoresque. Il s'agissait plutôt d'une large plateforme, d'un interminable hall d'aéroport dans lequel les voyageurs en partant avait pour coutume de flâner. Les commerces étaient ceux d'une zone d'embarquement, cafétéria, parfums, vêtements de luxe, souvenirs, journaux, disques, dont le fameux Lido Musique où nous allions quelquefois, Richard et moi, acheter des albums import. Tout ça, moi, j'ai énormément aimé ce cadre-là, ce côté, ces descriptions du clinquant, du côté très plastique des années 80 et en même temps l'espoir très particulier, bon, lié au consumérisme qu'il y a eu à cette époque-là. Je trouve que ça, c'est génial et il y a des notations sur ce que tout ça est devenu, sur les grandes villes d'aujourd'hui qui, je cite, se serrent les coudes. On dirait qu'elles appartiennent à la même famille, qu'elles vivent en compagnie les unes des autres. Les grandes villes font leur jogging ensemble, se racontent leur soirée de la veille. Il y a des petites notations comme ça sur le vif que je trouve très bien vues. Mais sinon, je dois dire qu'assez rapidement, je dois avouer que je me suis pas intéressée aux péripéties des deux héros.
Florent Georgesco.
Mais la phrase que vous évoquez, Arnaud, est ailleurs. Une nuit cinématographique quand les Champs-Élysées étaient encore les Champs-Élysées.
Parce qu'il le redit.
Ouais. C'est dans le passage où il vient de penser à la statue d'éléphant qui se trouve dans le bureau de son producteur, au pied de laquelle le producteur négligemment pose ses disques d'or. Et il imagine à ce moment-là l'éléphant. Il dit « Et la nuit, qui sait, l'éléphant allongeait sa trompe. Les porter à sa bouche et les avaler. Il attendait que la nuit descende sur Paris, une nuit cinématographique, quand les Champs-Élysées, etc. L'éléphant les savourait, parlant de tout ce qu'il y a dans les rues, des voitures, des gens, des lampadaires. Et le lendemain, juste avant l'aube, il les recrachait comme si c'était de gros bonbons qui ne fondaient pas. Il allait les chercher avec sa trompe au fond de son ventre et les restituer tels quels. un éléphant bariolé qui ressemblait à un jukebox. C'est-à-dire, je veux bien qu'on ne voit pas l'intérêt de ce livre, mais on ne peut pas dire que tout ce qui est dit d'emblée, enfin que tout est dit d'emblée au fond, que c'est, par exemple, c'est pas du tout l'histoire d'une malédiction. Où est la malédiction dans ce livre ? C'est l'histoire d'un triomphe. Il y a absolument aucune malédiction quand il dit.
Vous l'avez dit vous-même au départ, c'est un miracle.
Quand le narrateur dit
un miracle et une catastrophe.
Oui, mais oui, il définit là un livre qui n'est pas du tout, qui n'est pas celui que vous avez dit, qui n'est pas l'histoire de la malédiction d'un tube en rien. Où est la malédiction quand vous vendez 50 millions d'exemplaires.
Quand on voit où il en est. Mais ce n'est pas dans le temps présent.
Mais le livre est plus secret que ça, je pense. Ce n'est pas du tout
à
cause du 45 tours.
Ce secret avec Elisabeth.
Ce n'est pas du tout à cause de ce 45 tours qu'il se retrouve là. Où l'avez-vous vu dans le livre? C'est pas du tout ça qu'il raconte. Ce qu'il raconte, c'est une histoire mythologique dont je viens de vous donner un exemple.
Les portes se referment à un moment donné. Et ça finit dans la maison de campagne.
Mais non, peut-être que malédiction n'est pas le bon terme. Mais
pas
en
du
gros,
tout.
Si vous voulez,
il prend soin de dire que le tube lui rapporte aujourd'hui plus d'argent qu'à l'époque. Donc il n'y a aucune porte fermée, pas du tout. Ça ne se passe absolument pas comme ça.
C'est pas parce que l'argent rentre que les portes s'ouvrent. Enfin bon, ça,
non, mais lui n'a jamais voulu faire d'autres disques. Donc, quelle porte ?
Mais parce qu'il a attendu en vain le retour son producteur aussi.
Il n'y a pas de malédiction matérielle. Il n'y a pas de malédiction concrète. Il y a autre chose qui se passe. Je vous ai parlé de l'éléphant pour vous donner un indice de la part mythologique du livre qui travaille la totalité du récit. Il y a beaucoup d'autres exemples à donner. Il y a des pages magnifiques aussi sur la campagne, sur les campagnes désertées en France, avec ce passage assez génial où il est dit que peut-être aujourd'hui l'Europe n'a plus à être occupée par des armées ennemies parce qu'il n'y a plus rien à occuper, parce qu'il n'y a plus rien à piller, parce qu'il n'y a plus rien du tout. Ou bien quand il marche dans la nuit et qu'il dit « je sentais qu'il y avait au-delà de l'endroit où j'étais, toujours au-delà, quelque chose d'autre » et qu'il imagine un trou qui, comme l'éléphant, avale tout. Les motifs de ce genre, qui sont des motifs mythologiques, parcourent la totalité du livre. Et quand, au début, à la première page que vous avez lu, Arnaud, il dit ce 45 tours, cette malédiction, c'est ce chant-là qu'il ouvre, un chant qui n'a absolument rien à voir avec le récit concret d'un disque, de l'histoire d'un disque, de portes qui se ferment ou pas. C'est absolument pas le sujet. Les portes sont totalement ouvertes. C'est un mec qui a fait fortune dans la chanson, mais la malédiction est ailleurs, la malédiction est structurelle. Parler de métaphysique à partir de ce moment-là n'est pas absurde. Et en tout cas, si vous voulez lire ce livre, il faut au moins voir ça dans le livre. On ne peut pas le réduire à quelque chose qu'il n'est pas.
Non, mais l'histoire du tube, elle est quand même racontée in extenso.
Mais enfin, je veux dire, très détaillée. Bon,
elle est pardonnée depuis quand,
mais quand c'est quand même dans le livre, Florent.
On doit ne pas raconter une histoire.
Ah non, mais on n'a pas dit ça.
Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils l'ont fait.
On en donne
ceux qui l'ont fait, je viens d'en donner des indices qu'il serait vraiment injuste pour ce livre de ne pas voir, de faire comme s'il n'existait pas.
On a donné des qualités de ce livre. On n'a pas vu forcément les mêmes que les vôtres ici, mais on n'a pas le temps de développer davantage. L'histoire du tube allié, il n'y a pas que ça. Et on l'a dit d'ailleurs.
Je n'ai pas dit d'ailleurs moi que l'histoire du tube n'était pas intéressante. Bon. Je dis, elle est sous une lumière que vous n'avez pas dite dans ce que vous avez
donc
dit.
Nous n'avons pas vu, ce qui est tout à fait différent.
Je suis certain que vous l'avez vu, c'est pour ça que je dis dites.
45 tours de Mark Green, publié chez Rivage.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Concluons avec le jeu de la dispute. Retour sur le jeu d'hier au soir. D'abord Antoine Guillot.
Qui faisait gagner des invitations pour le spectacle En route Kaddish de David Jezelson au Nouveau Théâtre de Montreuil. Il me fallait entendre le nom de la comédie de la compagnie J'y arriverai de David Jezelson. Il s'agissait de Lieu-dit.
Ce soir, des places pour Le Monde d'hier. Stephen Zweig au Théâtre des Mathurins. Place à gagner pour mercredi 23 mars 19h. La question.
Quel est le nom du roman que Laurent Sexic avait consacré à l'auteur du Monde d'hier?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Elisabeth Franck Dumas, Florent Georgesco et Antoine Guillot. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore, David Jacuboviez et Virginie Le Duo. Prise de son assurée ce soir par Bruno Mourlan. Réalisation David Jacuboviez. Je vous retrouve lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Fabienne Pascot et Philippe Chevillet. À notre affiche, La Mère d'Edouard Bond, mise en scène par Alain François à la Comédie Française, et Par-delà les marronniers, texte et mise en scène de Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point. Je passerai un coup de fil à l'auteur et metteur en scène Pauline Lédé pour son nouveau spectacle Fleisch. Nous retrouverons Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle de la dispute, les choix du comédien et metteur en scène Clément Hervieux-Léger qui sera l'invité de la dispute toute la semaine prochaine. Il y aura bien sûr de nouveaux cadeaux à gagner. Tout cela c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15 hors champ par Laure Adler et dans quelques instants le journal de la rédaction. Thank you.